culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air. On air. On air. Creation on air. Deux artistes pour partir en territoire d'enfance. Jean-François Sprissigo compose des photographies, fabrique des vidéos, s'aventure dans des livres. Ce soir, il s'aventure sur les ondes avec un ami qu'il décrit ainsi. Quadragénaire à la silhouette d'éternel adolescent et au regard mélancolique, son jeu est reconnaissable entre tous par la clarté de l'articulation, l'allégresse et la volubilité. C'est Alexandre Tarot. Et puis une troisième, Nathalie Salle, qui avec eux part en enfance. Une enfance envisagée par Jean-François Sprissigo comme un territoire, celui d'où l'on vient sans pour autant avoir jamais pu tout à fait l'explorer. Lettre à quelqu'un, par Jean-François Sprissigo, Alexandre Tarot, Nathalie Salle, création on air.
Lettre à quelqu'un.
Cher monsieur, il faisait froid ce matin. J'avais déjà vu des regards comme ça, plus forts que des mots. Un peu comme quand on est obligé de rester les yeux ouverts pour ne pas tomber. Ce jour-là, maman, rien qu'en la regardant, j'étais triste aussi. J'aurais voulu dire quelque chose pour changer ça. Elle s'est assise et a fait des nœuds avec ses doigts. Je creusais des tourbillons avec ma cuillère dans le lait de mon bol. Il fallait que je m'occupe les mains, moi aussi. Je relevais la tête. Elle baissait la sienne. On a retrouvé Iko. On a retrouvé Iko. J'entendais battre mon cœur. Tout cela semblait si long. Elle a repris. Je comprenais mal. Les murs se rapprochaient. Iko enfui, découvert, sur la route, voisin.
Iko, enfui.
J'avais chaud.
Découvert.
Si chaud. Pourtant, je ne portais qu'un t-shirt. Maman me regardait, sa main sur la mienne, moi dans ses yeux.
Sur la route.
J'ai vu que je ne le reverrais plus. La nuit tombait, et moi avec elle. Je suis remonté dans ma chambre, j'avais besoin de m'allonger. Mon chien était là, maintenant il ne l'était plus. Je l'avais encore dans ma tête, mais je perdais les images. J'ai regardé les photos, aucune n'arrivait à le faire revivre autant qu'il vivait. Je ne l'aurais même pas vu pour la dernière fois. Je ne comprends pas pourquoi tout finit par disparaître. Je croyais que tout avançait en même temps. Je lui demandais même quelle maison lui plairait. Plus tard. Pour moi, on ajoutait toujours quelqu'un sans avoir à en enlever un autre. Mort. Si on y va tous, c'est que ça doit être bien. Cher monsieur, à l'école, on a parlé de ce qu'on voulait faire dans la vie. C'est drôle, pour les adultes, quand on est petit, on ne fait rien. Madame nous a installés en cercle. Nicolas aimerait être vétérinaire pour sauver des animaux. Jérémy a choisi pompier pour avoir son nom dans le journal. Manuel veut reprendre la pharmacie de sa mère, comme ça, il continuerait d'être riche. Madeleine, elle, rêve de devenir institutrice, pour savoir ce que ça fait. Moi, j'ai répondu « artiste ». Madame m'a regardé.
« Mais comme métier, tu veux faire quoi ?»«
Artiste ».
On ne peut pas vivre en regardant les étoiles, tu sais. Ça sert à rien. Que veux-tu faire d'utile ?
Je lui ai fait le sourire de ceux qui disent avoir compris. Et en silence, j'ai maudit le cri qui peinait à s'étouffer au fond de mon ventre. Dans la cour, tout le monde s'est moqué de moi. J'ai l'habitude. Heureusement, ce soir-là, le ciel était joli. De la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé les étoiles. Puis, j'ai appuyé fort sur mes paupières pour continuer à les voir et retrouver Vénus. C'est fou tout ce qu'on voit les yeux fermés. Quand les étoiles de mes yeux se sont éteintes, j'ai vérifié que celles du ciel scintillaient toujours. Ça m'a rassuré de savoir que je pouvais compter sur elle. La maîtresse se trompe. Ça sert bien à quelque chose de les regarder. Ce sont les guides de ceux qui acceptent d'y croire. Papa m'a expliqué que les étoiles brillent quand elles meurent et, de là-haut, elles montrent le chemin aux marins perdus. Ico doit être avec elle. Le soir, il les guettait si souvent. L'horizon pour seul berger, il a fini par les rejoindre. Mon chien aura à cœur de rassembler les astres pour, même de si loin, continuer à me guider. J'en suis sûr.
Tout va se jouer dans l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, c'est un peu le résultat de l'enfance. Au point de vue traditionnel, l'enfance est la période la plus essentielle, la plus immense, la plus fondamentale, puisque le reste en est une conséquence. C'est pas une période, on va dire, légère, c'est une période d'intensité.
Il y a du merveilleux dans l'enfance, fort heureusement. Simplement, je crois qu'il est important de se dire qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a aussi, loin de l'imagerie rose et bleu pâle de l'enfance, quelque chose parfois de beaucoup plus douloureux chez l'enfant. Mais fort heureusement, l'enfant a cette capacité incroyable d'imagination, imagination au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire créer des images qui forment un paysage, un lieu d'enfance dans lequel il peut se réfugier, et qui fort heureusement le met à l'abri de tout ce qui pourrait causer de l'angoisse dans son environnement.
Dans ma vie régulièrement, je retombe sur une des photos de mon enfance qui est celle où je me trouve derrière une vitre à regarder dehors. Et je regardais les voitures et je reconnaissais toutes les voitures par leurs marques et les plaques d'immatriculation. Comme si, ouais, c'était pas moi, j'étais pas là. comme si j'étais pas présent et que les choses se passaient derrière une vitre.
L'enfance, pour moi, ça peut être aussi bien une couleur, une odeur et une saveur, les trois en même temps. Un fruit est quelque chose qui apporte aussi le sentiment de sécurité. Si je pense par exemple à ce que ma grand-mère pouvait me préparer pour le goûter, je me souviendrai du geste qu'elle faisait en me le donnant. Du geste que j'ai fait pour prendre la tartine beurrée avec de la poudre de piment parsemée par-dessus. Et ensuite, cette sensation de bien-être lorsque je croque dedans et que je savoure. Et ce goût me fait replonger dans le film de mon enfance.
Certains enfants sont mieux que les adultes. Ils sont beaucoup plus libres et ils ne pensent pas comme les adultes à tout ce qui pourrait nous arriver, quoi. Ils s'en vont franchement.
Cher monsieur, ça y est, maman vient de me l'annoncer, j'attends une sœur ou un frère. Elle est venue dans ma chambre et m'a pris la main pour m'en parler. Mes doigts dans les siens, j'écoutais. Elle est repartie après m'avoir déposé un baiser sur le front sous lequel je réfléchissais déjà. J'ai ainsi passé la fin de la journée derrière la fenêtre à guetter. Personne n'est venu. Je n'ai pas vraiment été surpris du retard. Si le bébé ne s'est pas encore décidé à être une fille ou un garçon, c'est normal qu'il prenne son temps avant de se mettre en route. Mais je pensais tout de même pas autant. Nous sommes en février et maman ne l'attend pas avant septembre. Alors je suis revenu dans le salon avec un atlas et j'ai demandé d'où il venait pour arriver si tard dans l'année. Ma question eut l'air de la surprendre alors que j'avais déjà pris soin de préciser que ça devait être forcément au-delà de l'Europe. Je l'avais interrogé papa des yeux et elle semblait surprise de me voir lui suggérer timidement l'Afrique. Face au silence de mes parents, je me risquais à avancer l'hypothèse de Pluton, Neptune ou même Mars, mais aucune planète ne sembla suffisamment éloignée car ils eurent beaucoup de peine à camoufler leur rire. Papa me demanda si je n'avais pas appris ça à l'école et il m'assit sur ses genoux. Les genoux égale quelque chose d'important à me dire. La nuit arriva. Je gagnai ma chambre, une feuille enroulée dans la main. J'avais dessiné avec papa les différentes origines possibles de la venue de mon frère ou ma sœur. La plupart étaient barrées d'un large trait. Au final, il n'y en avait qu'une. J'ai d'ailleurs été bien ennuyé d'avoir à raturer toutes mes belles planètes et me dire que ce n'est pas demain que je partirai dans l'espace. En fait, ça n'est pas d'une région ou d'un lieu que viennent les enfants, et encore moins d'une cigogne ou des légumes. Quand papa émit l'idée, j'eus honte d'avoir fait pipi dans le jardin. Mais de nous. Enfin, je veux dire deux. Premièrement, il faut être deux. Un homme et une femme, en principe. Maman a ajouté un homme qui rentre plus tôt à la maison, elle dit que c'est plus pratique. Une fois les deux personnes réunies, elles doivent s'aimer, au moins beaucoup. Si elles s'aiment vraiment très fort, il arrive, quelque temps plus tard, que la maman prenne des kilos, mais pas trop, d'après maman. Et une fois qu'elle est bien ronde comme un fruit mûr, le bébé est là. J'ai demandé si le bébé c'était le noyau de maman, mais au tout sautement de papa, j'étais encore dans l'erreur. Ce matin, au petit déjeuner, je me suis souvenu de Gabriel. C'est un Africain et pourtant ses parents sont blancs. J'ai demandé pourquoi à maman, tout en scrutant par où elle pouvait bien gonfler pour avoir un petit moi dedans. Elle semblait ennuyée. Pas de papa pour recevoir son regard interrogatif. D'après elle, parfois, les parents s'aiment, l'enfant naît, mais ils peuvent pas être là pour la suite. Alors ils le confient à d'autres pour l'élever. Maman fut très étonnée que je lui demande si elle était bien ma maman. Elle me serra fort dans ses bras, m'amena à la salle de bain et nous plaça tous deux devant le miroir. C'est vrai, j'ai les mêmes yeux et le même nez. Elle ajouta avant de partir que seule elle savait à quel point m'aimer. Je suis content d'avoir une maman et un papa, d'autant si ce sont les miens. Je retrouvai Gabriel le lendemain à l'école pour raconter tout ça. On a beaucoup ri en songeant au dessin des parents. Il est vraiment chouette, Gabriel. Quand sa mère est venue le chercher, j'étais content pour lui. Elle avait les mêmes yeux et semblait aussi savoir à quel point l'aimer.
Je crois que la certitude d'être aimé et la certitude que l'on peut avoir dans la bienveillance et la confiance que l'on peut avoir en ses parents est quelque chose qui peut créer de l'insouciance. C'est quelque chose qui, hélas, après quelques blessures, quelques ruptures et quelques trahisons, va nous abandonner quand nous serons adultes. Mais l'enfant, s'il est suffisamment entouré, peut en effet vivre dans cette insouciance qui ne l'empêchera pas de ressentir quelques angoisses et quelques peurs, mais sur un socle solide.
Mon enfance a clairement déterminé un mouvement général, ouais, une colonne, une impulsion. Ça, c'est évident que le mouvement commence là. Enfin, on est, c'est parti. Hein. Le ballon est lancé jusqu'au bout, quoi. Mais comme je l'ai vécu de façon plutôt extérieure, c'est quelque chose qui est encore assez loin de moi. C'est quelque chose que actuellement je retrouve. Et donc l'enfance, ouais, c'est moi ce que je vis maintenant, d'une certaine manière. Et donc je reprends, je réapprends à apprendre. Je recommence un petit peu à retourner derrière la vitre, peut-être, ou à baisser la vitre, ou à l'ouvrir.
Je pense qu'on essaye toujours de se raccrocher à l'enfance. Et pourtant, elle nous échappe. C'est comme un... Je pense que c'est un film que l'on a plaisir à revoir. Mais suivant les différentes étapes, les différentes périodes de notre vie, ce n'est pas le même film que l'on revoit.
Cher monsieur, il est parti, sans dire au revoir à maman. Il ne s'aime plus. Et moi, on me demande de comprendre. Les problèmes d'enfants relèvent de la bêtise, d'après eux. Moi, je ne trouve pas que les leurs soient une preuve de sagesse. Je suis triste pour mon papa. À moi, il a dit au revoir, et moi aussi. Parce qu'on s'aime toujours. J'existe comme le prolongement de maman et papa qui s'aiment, et quand ils ne s'aiment plus, je suis encore là, entre eux. Un trait d'union involontaire. Obligé. À vrai dire, la difficulté, ce n'est pas vraiment de comprendre. Les silences à table, je les comprends très bien. C'est d'accepter. J'ai tant de mal à croire qu'ils ne seront plus jamais là, tous les deux, ensemble. Et cet enfant qui devait nous rejoindre, lui aussi s'en est allé, m'a dit maman. Tout s'en va. Dans le hall, après m'avoir caressé les cheveux, papa m'a dit, les yeux mouillés, « Voilà, mon gars. » Et la poignée de porte s'est relevée. Jamais je n'avais à ce point entendu le bruit des tubes néons. Jamais ce couloir n'avait été si grand. Jamais j'avais cru devoir vivre ce jamais plus. Je restais là à attendre longtemps. Quoi, je ne sais pas, que la porte se rouvre, que le sol se fende, qu'Ico revienne, que le temps m'oublie. J'attendais n'importe quoi. Impossible, impossible. Il ne restait plus que moi et le silence des précipices. Quand je suis allé me coucher, j'avais appris quelque chose. Quelque chose, je le devine, que j'aurais intégré pour m'en détacher. Oh, pas si difficile à comprendre, mais tellement dur à accepter. Le souvenir. Cher monsieur, j'aime les voyages, surtout en train. Selon la tête des gens, je vois de suite s'ils partent en vacances ou au travail. Je me demande si certains n'ont pas définitivement perdu leur sourire, comme s'ils avaient oublié comment faire. Alors pour essayer de le leur rappeler, j'exagère le mien. Soit ça fonctionne et ils rigolent, sinon ils me demandent ronchon « Tu veux ma photo ?» Je réponds « Pas comme ça ». Si je n'ai personne en face de moi à qui sourire, j'en profite pour regarder par la fenêtre. La partition paysagère défile sur l'improbable portée des caténaires. Au programme, la symphonie forestière, l'opéra des villes ou la sonate des champs. Il m'arrive même de l'accompagner au piano sur le dossier du siège en face de moi. L'orchestre ferroviaire ne semble s'entendre que dans ma tête pour susciter à ce point l'étonnement du public dans le wagon. Chaque fois que le train s'arrête, je me fige, l'œil rivé sur le paysage qu'encadre le pourtour de la fenêtre. Parfois, je dois me reculer d'un siège pour avoir le bon point de vue. Ainsi, j'ai l'impression de peindre. On pourrait me croire un peu dérangé, tant je fixe l'extérieur sans bouger le moindre cil. Et bien sûr, je ne réussis pas toujours une belle toile. Question de décor. Dès l'approche d'une gare, je me dépêche de changer de place pour profiter du meilleur point de vue, celui d'où le tableau sera le plus beau. Au retour, il m'arrive de me tromper de siège. Et c'est ainsi qu'un jour, je me suis retrouvé nez à nez avec le proviseur. Je lui ai expliqué. Il a hoché la tête. Je lui ai souri. Lui, pas. Je ne saurais jamais s'il a changé de place pour me copier et tenter d'imager une plus belle toile que moi, ou s'il a simplement cru que j'avais des flageolets dans le crâne. Ce train-là, d'où je vous écris, roule jusqu'au matin. Je pars rejoindre ma mamie d'Italie. Seul. Je suis grand maintenant. Pas autant que mon frère Pierre, lui, ses pieds toucheraient le bout de la couchette, mais suffisamment déjà pour grimper sur celle du dessus. Maman pensait que je ne la voyais pas pleurer quand le cheminot a sifflé le départ. Elle a disparu de la fenêtre, à peine avais-je terminé le cœur sur le brouillard de la vitre. Une dernière respiration commune, avant de prendre mon propre souffle. Plusieurs fois, le contrôleur est venu voir si ça allait. Il parlait en italien et moi en français. Évidemment, ça n'allait pas. Alors il repartait en ajustant sa casquette, comme pour vérifier que sa tête était toujours dessous. Le train déroule le soir à présent. Tant de couleurs surgissent au seuil du jour. Des jaunes et rouges incandescents, pour rappeler à la nuit combien le crépuscule n'a rien à envier à l'aurore. Le ciel de cendre à venir flamboie de ses dernières braises. Il va me falloir me concentrer pour ce tableau. C'est assurément une toile de maître. C'est étrange comme la plupart des gens pensent pouvoir rêver uniquement dans un lit. Moi, j'aime rêver. Si bien que parfois dans le train, je m'endors.
Est-ce qu'on a besoin de devenir adulte pour partir? Est-ce que... Ma réponse semble étrange, mais je suis assise devant une fenêtre et je regarde le ciel et les nuages. Et une percée bleue entre des nuages très blancs. Je peux penser à un avion, mais on peut aussi bien penser à l'éternité quand on a cette image devant soi. Et... Quel est le but de la vie, tout simplement? Qu'est-ce qui est important?
C'est le premier souvenir d'enfance dont je me souviens, m'ennuyer. Et en fait, maintenant, je me rends compte à travers mes expériences, ma vie, que c'est un moment comme si j'avais laissé ça de côté, que je ne l'avais pas vécu vraiment et que je le retrouve maintenant sous une autre forme, comme continuité là, que je récupère 30 ans plus tard.
Il y a également, chez l'enfant, la peur du morcellement. C'est un enfant qui est en train de construire son corps et il peut avoir tout à fait peur que ce corps ne tienne pas bien ensemble. Ça, c'est aussi une angoisse terrible. Donc, les cauchemars des enfants souvent mettent en scène ces angoisses-là. Beaucoup d'enfants peuvent nous dire qu'ils ont rêvé, en effet, qu'ils étaient poursuivis par quelqu'un qui voulait les couper en morceaux, par quelqu'un qui voulait les manger. Voilà comme quoi on arrive à l'idée que ce vert paradis de l'enfance est quand même semé de créatures assez terrifiantes.
Cher monsieur, je quitte ma maison. Je quitte mon école, mes amis, le ciel de ma fenêtre. Je quitte Madeleine. Mes affaires tiennent dans 5 cartons. Celles de ma mère bien davantage. Les années semblent se compter en cartons. Jérémy est passé devant chez moi. Il accompagnait son père à la boulangerie. C'était si bizarre de lui dire au revoir pour de vrai. Il s'est éloigné jusqu'au coin de la rue, et puis plus rien. Une image fantôme dans ma tête comme une tache de soleil sous les paupières. La maison s'est vidée à mesure que le camion engloutissait nos affaires. Des hommes gris chargeaient les caisses, silencieux, aussi indifférents que pressés. Comment emporter la mémoire des murs avec nous ? Plus tard, je comprendrai, m'a répondu maman. La liste des choses remises à plus tard s'allonge, comme celle des tristesses cachées. Je me sens démuni face à ça. Si démuni que je veux désormais vivre léger. Mon précieux doit toujours pouvoir s'emporter. Ainsi, plus rien ne m'enterre. Mon trésor de n'importe quoi m'évoque à peu près tout. Les fragments d'objets les plus éloignés du souvenir à garder me le font maintenir plus fort encore en moi. Comme si un élément banal était nécessaire pour visiter mes souvenirs profonds. Un hameçon à fleur de l'inconscient pour repêcher des galions enfouis. Finalement, peu m'importe de posséder. Je préfère m'inspirer du vent. Il est partout chez lui, et toujours il enlace ce qui vient. Oui, oui. Plus tard, je comprendrai. Les portes du camion se sont refermées sur le chargement d'une vie. Je suis monté dans la voiture et nous sommes partis. Sans un mot. Sans un sourire. Presque sans respirer.
Parce que la cause d'un événement est toujours une forme de représentation. Donc on va chercher dans le passé la cause du présent. On va toujours trouver une cause analogique, un symbole, mais jamais une cause effective. Parce que pour une personne différente, la même cause aurait produit un effet différent. Donc traditionnellement, on ne rentre pas du tout dans l'élément psychologique. Mais uniquement, on peut voir qu'un enfant qui est émergé, qui est stimulé par la créativité, par l'écoute, dans une société non compétitive, dans une société non guerrière, dans une société non accumulative, va certainement s'ouvrir beaucoup plus que dans une société qui affirme, dans une société qui prétend, dans une société en guerre, dans une société qui prétend avoir raison, qui se bat contre un ennemi qui a tort. Mais si l'enfant a la chance d'avoir des parents qui sont dans l'écoute, dans la créativité, dans la disponibilité, et non pas dans le savoir et dans l'arrogance, ça va énormément s'incarner chez l'enfant, qui deviendra non compétitif, qui deviendra non affirmatif, qui deviendra découverte du monde et non pas une guerre constante pour affirmer un imaginaire idéologique, ce qui généralement est ce qu'on appelle l'éducation.
J'ai perdu ma maman à 22 mois. C'était la guerre. Puis mon papa, je ne l'ai plus vu. Il était dans un camp de concentration. Je n'ai plus de ses nouvelles. Dans mon enfance, ce qui m'a manqué le plus, c'est ma maman. J'ai été élevée par ma grand-mère et son frère. Mais il est assez sévère. Mais c'est ma maman qui m'a manqué. Une maman, je pense que c'est fort important.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de séparation entre l'enfance et l'état d'adulte, et mon métier de psychanalyste m'en apporte la preuve tous les jours. J'ai sur mon divan des adultes en qui l'enfant se réveille en permanence. Et c'est là qu'on voit à quel point cette enfance, si présente, a déterminé réellement le destin de l'adulte. Et on ne mesure pas assez à quel point certains événements heureux, fort heureusement, mais aussi certains éléments douloureux continuent comme ça de marquer au fer rouge le devenir de l'adulte. Il y a donc évidemment une correspondance permanente entre l'adulte et l'enfant qu'il a été. Et c'est ainsi qu'on peut voir, dans le cadre de la relation psychanalytique, de redoutables hommes d'affaires tout à coup laisser place à l'enfant douloureux qu'ils ont été et sangloter avec d'ailleurs la voix de l'enfant qu'ils étaient et retrouver là une émotion qu'ils pensaient avoir oubliée mais qui les habitait depuis toujours.
Cher monsieur, un copain est tombé sur mes lettres aujourd'hui. Il s'est moqué. Et comme souvent dans ces situations, il a trouvé un public toujours disposé à aider quand ça ne demande qu'à être méchant. Je continue d'écrire, assis par terre dans un coin de la cour. Le froid se souvient de moi chaque fois que j'étends les jambes pour éviter les fourmis. Réfléchir, croire en quelqu'un ou quelque chose, est toujours considéré comme une faiblesse, un prétexte de moquerie. Ces autres n'affirment rien, n'osent rien, enfermés qu'ils sont dans le seul désir de critiquer quiconque pourrait les sortir de leur ennui. Leur seule certitude, c'est de ne jamais rien faire. Je veux pourtant pas les détester, pas leur en vouloir, pas les blesser comme ils m'ont fait, sinon c'est moi que je condamne. Mon silence les a d'ailleurs encore plus agacés, jusqu'à me frapper. J'ai les joues rougies, insupportables, et des croûtes de sang sur les mains. Quelle que soit la hauteur de chute, le sol ne sera jamais d'un bon accueil. À la réunion des parents, le professeur a dit à ma mère que je n'étais pas vraiment comme les autres de mon âge. Oh, il serait plus normal que je sois davantage avec ces autres.
Normal.
Il serait plus normal que je fasse du sport. Il serait plus normal que je prenne la parole en classe, autrement que pour dire des bizarreries. Normal, 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 normal. Il m'agace ce mot à la fin.
Normal.
Et d'abord, je veux l'écrire comme je le veux. Je veux penser comme je veux. Mon vœu, c'est ne plus souhaiter. Ce qui est normal, c'est de courir sous la pluie, surtout si ça permet d'être trempé. Ce qui est normal, c'est d'aimer ses mamies, et c'est normal de le leur dire. Ce qui est normal, c'est d'être seul pour ressentir ce qui m'est vraiment essentiel. Ce qui est normal, c'est surtout ce qui n'est pas revendiqué comme tel. Normal, non mal, non au mal, non à une normalité faite pour nous réduire à être tout ce dont nous avons peur. Pourquoi la pire chose qu'il me soit arrivée aujourd'hui, c'est d'avoir été lu? Et ce soir, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est que quelqu'un me lise et me comprenne, enfin. La vie est traversée de paradoxes. Elle respire en mouvement contraire, j'inspire, j'expire et je vis. Je dois accepter sans juger, comprendre sans craindre. Ce soir, j'ai envie d'en rire. Je repense à la réaction d'Ico. Il penchait la tête après que j'étais triste ou en colère. Il me disait « Tu as le droit d'être triste, mais aime chacune de tes larmes. Ainsi peuvent-elles te dire au revoir sans craindre de devoir revenir. Maintenant va. La vie est vaste. Ton imaginaire n'est pas suffisant pour concevoir tout le bonheur du monde. » Un petit chat sur la corniche me regarde depuis un moment et me donne l'impression d'être d'accord avec tout ça. Ça me semble normal comme réaction.
Je crois qu'on devient un véritable artiste quand on retrouve la tactilité de l'enfance. Pas seulement la tactilité, d'ailleurs, quand on retrouve ce que l'enfant s'autorisait à faire. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que des adultes n'osent plus jamais chanter en public, alors qu'enfants, ils ont passé le plus clair de leur temps à chanter sans inhibition? Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que des adultes ne sachent plus dessiner alors qu'ils ont passé leur enfance à dessiner? On a le sentiment que tout ce qui faisait la spontanéité, et la beauté et la créativité de l'enfant se trouve comme ça inhibé chez l'adulte sous ce qu'on appellerait la pudeur, la honte, la gêne. Quelque chose qui vient là faire obstacle à l'enfant qu'ils étaient.
Cette capacité à pouvoir s'émerveiller, j'espère que je l'ai encore. Si on arrivait à retrouver les sensations de l'enfance avec notre conscience d'adulte, je pense que nous serions les adultes les plus heureux au monde. Parce que malheureusement, la vie, le monde adulte nous happe sans que l'on se rende compte. Comme si on nous mettait en hypnose et on se réveille un jour et on se retrouve adulte. Moi, je repense à mon enfance comme à un rêve. Parce qu'un rêve, c'est toujours... Un rêve, c'est positif. Si c'est négatif, on parle de cauchemar. On n'utiliserait pas le mot rêve. Et je pourrais me dire... Oui, c'est un beau rêve, j'ai envie de le revivre. Comment faire pour marcher en arrière et arriver à toucher ça à nouveau.
J'aime beaucoup cette notion-là, ouais, de jeu, jouer. C'est-à-dire que le jeu, c'est, je l'associe souvent au mot joie. Jouer, joie, c'est quelque chose de vraiment inné, naturel. Le gamin, il joue. C'est pareil, c'est un peu le même mouvement. Donc c'est vraiment... ça, la conscience, je pense, de l'enfant, d'avoir cette joie de jouer. Pour lui, c'est son premier mouvement, c'est jouer. L'enfant, en moi, nous, il doit aimer jouer simplement pour jouer. Pas accumuler ni technique, ni savoir, ni objet. La joie du jeu.
Cher monsieur, je parcours mon album de famille. Les souvenirs s'effeuillent comme les pages du calendrier balayées par le courant d'air de la vie qui va. Regarder des photos, c'est renaître au passé. Elles enferment les personnes dans des cercueils de papier, alignés année après année dans les cimetières de nos albums. J'ai toujours eu peur de posséder l'image de ceux que j'aime. Dès lors, ils se figent. Ils se mettent à m'appartenir comme des preuves de ces moments de vie. Je préfère vibrer à l'intensité des instants plutôt qu'accumuler les traces d'un passage. De toutes ces fêtes de famille, j'en retiens les secondes de tragédie dans l'attente que la photo soit prise. Les enfants portent dans leurs yeux une gravité que l'on semble oublier une fois adulte. Ils nous retrouvent avec les rides. La photo témoin est une empreinte souillée de remords. Si je remonte plus avant dans les pages, je me demande pourquoi ce petit garçon au pied du sapin ne me rappelle rien, et pourtant il s'agit bien de moi sur la photo. Je me vois déjà ne pas me souvenir sur cette image. Attendre l'âge de commencer à penser pour également cesser d'oublier. C'est une logique assez cruelle d'ignorer l'insouciance pour prétendre à la raison. Mon esprit perd toujours trop rapidement les absents de mon livre. Ico, déjà si loin, et aussi Mojo, mon chat.
Il avait disparu depuis plusieurs jours quand je l'ai retrouvé sur le bord du chemin qui mène à la maison. Je l'ai emballé doucement dans une couverture et maman nous a conduits à toute allure à la clinique des animaux. Dans la salle d'attente, une dame avec son labrador nous a laissé passer. Elle a vu que j'y croyais encore. Madame Philippot s'est empressée de l'examiner sur la grande table. Elle a regardé maman, puis maman m'a regardé. Mon chat ne m'avait pas quitté des yeux. J'ai compris que je ne le reverrais pas. Il y aura toujours l'avant, cette satanée seringue, et l'après, qui se remplit du silence de la pièce et des mots qui viennent pas. Un poids ridicule pèse dans la salle, puis, très vite, comme pour se convaincre d'avoir fait le bon choix, les questions d'ordre pratique fusent sur le devenir de Mojo. On en parle comme d'une coquille vide dont il faut se débarrasser. Et lui est là, fatigué par la vie, éteint dans mes bras. Savait-il le dernier voyage où je l'emmenais ? Son petit corps immobile mettait le point final d'une histoire que je ne pourrais jamais revoir et dont l'image manque à mon cœur ce soir. Il reste 2 pages seulement dans mon livre de photos.
Les enfants sont habités par des fantômes en permanence, d'une certaine façon. Et quand ils n'en ont pas dans leur histoire familiale, eh bien, ils en créent, en se créant des personnages imaginaires qui viennent les secourir, les aider, parfois les persécuter un peu. Et je crois beaucoup aux fantômes. Évidemment, je ne crois pas aux fantômes sous la forme qu'on leur prête dans les films fantastiques avec quelques suaires et quelques tintements de chaîne, mais je crois aux fantômes qui nous habitent en permanence, c'est-à-dire de tous ceux que nous avons connus, aimés, parfois mal aimés. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans la culture populaire, si dans les contes qui font état de fantômes, les fantômes viennent toujours réclamer leur dû, ce qui est une véritable nécessité et une vérité psychologique, c'est-à-dire que ceux qui viennent nous hanter sont ceux peut-être à qui nous n'avons pas rendu les hommages que nous aurions dû rendre, ceux à qui nous n'avons peut-être pas rendu l'amour qu'ils nous ont porté. Et évidemment, ces fantômes-là viennent nous habiter, et les enfants sont très sensibles à ces fantômes.
L'état de conscience, pour moi, c'est... J'imagine une pièce dans laquelle on se déplace avec une petite lampe et de temps en temps, il y a des zones qui s'éclairent et d'autres. Mais au final, oui, je vois ça comme vraiment un seul lieu que j'explore et que je vois et que je ne divise pas en parties connues ou inconnues, mais juste des parties à découvrir sur lesquelles je mets de la lumière. Je pense que l'enfant, il doit probablement avoir d'autres outils. Il n'a pas peur, s'il n'a pas appris à avoir peur, il n'a pas peur, il y va. L'apprentissage, il est direct, ça rentre tout de suite. Après, on a l'expérience. Teintée de cette expérience, la conscience, je pense qu'elle est moins directe pour l'adulte.
cher monsieur. C'était à la mer, encore. J'y marche si souvent, en quête de rien, en quête de soi. L'horizon répond toujours quelque chose. Le sel agace les larmes arrachées au vent. J'y respire bien plus que je n'y vois. La lumière du nord est rêveuse d'un soleil absent. Elle y invente sa couleur détrempée de pluie. Un gris mélancolie, teinté d'orage, étincelle en éclats d'écume au bout des vagues, en fin de monde. Et le vent, encore, fidèle compagnon de solitude, il bat les flots depuis si loin que ses rumeurs sont d'une autre langue. Un enfant conquiert les dunes, à peine je le vois. Je suis à distance, la sangle de l'appareil me gêne, il me reste deux vues, il fait si froid. C'est qu'un petit garçon trop loin joue en face au large. Je déclenche tout de même, sans regarder. Les instincts ont en eux une vérité qui nous submerge. Rescapé du négatif, l'enfant prend des allures de prophète déchaînant les eaux. J'y vois précisément ce que j'ai ressenti sans l'avoir cadré. Lui, que je pensais inoffensif et convenu, révèle sa part d'ombre, ou plutôt la mienne. De cette obscurité naît l'incandescence. Une seconde au bras du heureux hasard sur un air de révélation. L'espace d'une photographie, il me revient qu'il ne restera de ma traversée de ce monde que l'audace d'avoir osé le regarder.
Lettre à quelqu'un, une création d'Alexandre Tarot et Jean-François Sprissigo. Composition originale, Alexandre Tarot. Texte, Jean-François Sprissigo. Prise de son, Pierre Quintard, Manuel Couturier. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Nathalie Salle. Avec Éric Barré, Nicolas Crombé, Mina Dornani, Louise de Werrias, Philippe Grimbert. Merci à Frédéric Changenet, Inès De Bruyne et Irène Omelianenko. Création en air 2016.
Demain soir, à 11h, rendez-vous pour Poésie et ainsi de suite par Manou Farine, avec Marie Connet, professeure de lettres classiques, traductrice et écrivain. La semaine prochaine, Un citoyen très ordinaire par Jean-Michel Espitalier et Véronique Lamondour.